Bonsoir. Clôture la semaine dernière du Forum économique international de Kinshasa. Ces assises avaient pour thème croissance économique et gouvernance. Pendant 2 jours, des personnalités congolaises et étrangères ont notamment réfléchi sur les moyens de réduire l'écart entre les richesses naturelles dont regorge le pays et la pauvreté de la population. Quelle analyse faire de l'organisation de ce forum? Quel pourrait être son impact sur le développement de la RDC? Trois invités participent à cette émission. Victor Nzuzi, coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Monsieur Nzuzi, bonsoir.
Bonsoir.
Al Kitenge, analyste économique et stratège. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Vincent Ngonga, directeur de cabinet adjoint du Premier ministre en charge des questions économiques, financières et de développement. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Du 6 au 7 juin dernier, il s'est tenu le tout premier Forum économique international de Kinshasa. Placé sous le thème croissance économique et gouvernance, ce forum qui a réuni d'éminentes personnalités nationales et internationales du monde économique se proposait de tracer les jalons d'un développement durable en RDC, de tenter pourquoi pas de combler le fossé entre les richesses de la RDC et la pauvreté criante de sa population. Daniel Tambinzoni.
Dressant le bilan de plus d'une décennie de gouvernance de Joseph Kabila à la tête du pays, le Premier ministre a fait savoir que la croissance de la RDC est devenue positive depuis quelques années, l'hyperinflation maîtrisée, la production du cuivre qui est passée de moins de 20 000 tonnes l'an à plus de 600 000 tonnes l'an aujourd'hui, le tout assis sur un cadre macroéconomique stable. Cependant, les effets distributifs de cette croissance ne sont pas encore ressentis par la majorité de la population. La RDC est toujours au bas de l'indice de développement humain et contraste fortement avec la richesse naturelle du pays. Voilà pourquoi les conférenciers à ce forum doivent aider le Congo à aller vers une croissance inclusive et la bonne gouvernance, exhorte Matata Ponyo.
Ces assises n'auront de sens que si elles s'inscrivent également dans la logique de la contribution à l'élaboration d'un plan national de développement de la RDC cohérent et que les Congolais puissent s'en approprier. Notre espoir, qui est devenu un espoir de tous les Congolais, est de voir la République démocratique du Congo devenir l'épicentre de la croissance, l'Eldorado des investisseurs, le modèle de prospérité que rêvent les Congolaises et les Congolais depuis bien longtemps. Agissons donc maintenant de sorte que cela devienne une réalité vivante.
L'autre partenaire à l'organisation de ce forum international, la Banque mondiale, reconnaît en même temps les multiples efforts déjà consentis par le gouvernement et l'ampleur de ce qui reste à faire. Quant à l'ambition de la RDC à devenir pays émergent d'ici 2030, le directeur des opérations de la Banque mondiale se dit optimiste.
Merci Daniel Tambinzoni. Al Kitenge, vous êtes analyste économique et stratège. Si je ne me trompe pas, vous avez pris part à ce forum. Ce forum était-il opportun?
Ce forum était très important.
Al Kitenge? Al Kitenge?
Oui, vous me suivez?
Très difficilement, si c'est possible de bouger un tout petit peu là où vous êtes pour que nous puissions mieux vous capter.
Lubumbashi, en fait, je ne sais pas si le réseau me permet de vous communiquer correctement ce que je dis.
Oui, là, ça semble s'améliorer. Allez-y, je vous en prie.
Parfait. Je disais que ce forum était très important. Il était important. C'est pour nous, en tant que pays, un moment où on a fait, à la lumière de la connaissance internationale, un brainstorming. On nous a évalué pour nous dire quelle est la photographie que nous donnons au monde aujourd'hui et face à nos ambitions, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que ce forum était très très important. C'est 3 leçons pour moi. La première, c'est que nous avons finalement des universités et des universitaires vivants, des gens qui produisent des pensées, des gens innovants et créatifs, des hommes d'expérience qui viennent partager ce qu'ils savent, ce qu'ils ont fait. Et la deuxième leçon, c'est que le forum économique, comme tous les forums du monde, a toujours été une opportunité pour nous de nous rendre compte qu'au-delà de la politique, il y a l'économie qui détermine la vie d'un pays. Parce que l'histoire politique de notre pays démontre clairement que la table ronde qui a eu lieu avant l'indépendance avait deux volets. Il y avait le volet politique auquel nos pères de l'indépendance ont participé. Et le volet économique, malheureusement, ils ne l'ont pas compris et ça nous a coûté cher jusqu'aujourd'hui. Mais moi, je pense aussi que le troisième volet, c'est que ce forum économique international est une première base de discussion pour un forum économique national qui, lui, va mettre en face de nos réalités tropicales, des ambitions internationales et des principes internationaux. Il est important que les visiteurs partis, nous puissions nous retrouver entre nous pour discuter en nous regardant droit dans les yeux de nos problèmes, être en mesure de produire notre plan national de développement, ainsi que l'a souhaité le Premier ministre.
Alors, Alkitenge, vous parliez tout à l'heure de la photographie que la RDC donne au monde et ce forum permet notamment cela. Pour vous qui avez participé, quelle réponse pourrait-on donner à cette préoccupation quant à la photographie que la RDC donne au reste du monde?
Nous sommes un pays extrêmement pauvre, nous avons énormément de potentiel, notre gouvernance est en cause, il est important qu'en tant que pays, nous puissions retenir un minimum de consensus national au point de vue politique pour permettre de définir les lignes économiques extrêmement importantes pour le développement de notre pays. Sans cela, notre pays est au bord de l'explosion. Et nous avons les moyens aujourd'hui de nous mettre ensemble pour nous doter d'une vision, d'un rêve commun que l'on appelle le plan national du développement qui manque tant au pays pour déterminer de quelle manière nous allons utiliser les ressources que Dieu nous a données pour rendre la vie des hommes digne et leur donner les raisons de se sentir fiers d'être membres d'un pays comme le nôtre.
Vous avez parlé des trois leçons que vous avez tirées de l'organisation de ce forum Alkitenge. La première, c'était que vous êtes rendu compte que nous avons finalement des universités vivantes. À ce niveau-là, voulez-vous dire qu'il y a finalement un lien qui est établi en RDC entre la politique et le politique et le scientifique?
Je le dis tous les jours, un pays ne vit que de la pensée qui est produite par ses propres fils. Et il n'y a pas un lieu meilleur en termes de production de pensée que l'université. J'ai toujours dit que l'université au Congo est excentrée, elle vit en dehors du temps et de l'espace. C'est une université morte et c'est une honte. Nous devrons nous réveiller aujourd'hui à la lumière de ce que nous avons vu. Des hommes venus d'Oxford, de Harvard, qui vous donnent des théories claires et nettes, qui dispensent la vérité sur la réalité congolaise parce qu'ils l'ont étudiée. Et c'est ça le rôle de l'université. Notre université ne doit pas rester un centre de production des incapables. Nos universités doivent être à la lumière des besoins de notre pays. Nos universités doivent être consultées, elles doivent avoir la voix. Il est anormal que nos professeurs d'université finissent en grande partie en politique.
Jean Mokobé de Wamba, en province orientale, dit toujours, il y a eu croissance économique, théorique, pas d'emploi, la corruption gangrène tous les secteurs, salaire de misère, une population qui vit avec moins d'un dollar. Alors, cette croissance sert à quoi, finalement?
Je pense qu'il est important qu'on se rende compte que nous avons un point de départ. Il n'y a aucun être humain qui peut vivre à un dollar le jour. Un salaire de 50 dollars par fonctionnaire, ce n'est pas bon pour avoir un État efficace qui peut être à mesure de piloter les théories et les faire vivre en réalité auprès des populations. Il est important qu'on se rende compte que la pauvreté est indigne et elle est surtout inacceptable pour un pays qui a les potentiels d'en sortir. Mais pour en sortir, nous devons agir dans la durée. Nous devons agir stratégiquement et je pense simplement que l'appel du Premier ministre est de dire le moment est venu pour qu'au-delà de couleurs politiques, les Congolais comprennent que le pays est en danger et d'ailleurs le nombre de guerres que nous avons, le nombre de groupes armés que nous avons nous permettent de réfléchir de manière stratégique et de nous dire pour nous inscrire dans le temps, il est important que nous gardions un consensus des choses qui nous mettent ensemble. L'une des choses qui peut réellement nous mettre ensemble, c'est le plan national de développement, c'est la vision que nous avons de comment nous voudrons vivre ensemble en mettant ce que Dieu nous a donné à contribution.
Merci Alkitenge. Vincent Ngonga, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Vous êtes directeur de cabinet adjoint du Premier ministre en charge des questions économiques, financières et de développement. Quelles sont les motivations qui ont milité en faveur de l'organisation de ce forum?
Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je commencerai par présenter ma gratitude à la radio Okapi et puis saluer mon ami Alkitenge avec qui nous débattons toujours du développement de ces pays. Le développement n'est pas une citadelle imprenable. c'est la façon de s'y prendre qui compte. Alors, je commencerai par dire que il n'y a pas de richesse, il n'y a que des hommes, et un pays ne vaut que par ses cerveaux. Donc, dans le cadre du Forum économique international, nous avons planché sur le thème « gouvernance et croissance économique ». En réalité, le Forum économique international constitue déjà une contribution à ce que nous appelons l'édifice du plan stratégique de développement national de la RDC. Donc, nous nous sommes servis de ce forum pour voir dans quelle mesure la gouvernance ou la conduite, la bonne conduite de la chose publique peut être un tremplin important pour d'abord la croissance accélérée de l'économie et puis pour le développement durable. Comment l'utilisation de nos ressources naturelles, au lieu de constituer une source de rente, peut-elle constituer, une plate de développement, une plateforme de développement pour la requalification des conditions de vie des citoyens congolais. Voilà ce sur quoi nous avons planché sur le Forum économique international, dont le thème central a été gouvernance et croissance économique.
Alors Vincent Ngonga, qu'est-ce que vous répondez à certains analystes économiques qui pensent que dans le discours d'ouverture, le Premier ministre, en parlant par exemple d'une situation économique reluisante, taux de croissance positif, franc congolais très stable, certains économistes pensent que le Premier ministre a quand même été un peu prétentieux?
Non, monsieur, je crois qu'il faudrait recadrer les choses. Il faut y aller progressivement. Dans un premier temps, quand par exemple vous construisez une maison, vous avez besoin de la fondation, que la fondation soit bien assise. Nous avons commencé par ce que nous appelons la stabilisation macroéconomique, qui nous a pris pratiquement, quand je prends de 76 jusqu'à 2002, ça nous a pris plus de 40 ans pour arriver à stabiliser le cadre macroéconomique de la RDC. Aujourd'hui, le taux de change est remarquablement stable, le taux d'inflation est très faible, et puis les fluctuations économiques qui étaient abruptes à l'époque ont été aussi maîtrisées. C'est ça la fondation. Nous sommes rendus aujourd'hui compte que la fondation est solide.
Mais la FEC quand même balaye d'un revers de la main ses affirmations. Elle prétend que c'est parce que le gouvernement n'a pas payé la dette intérieure notamment.
Laissez-moi évoluer, monsieur, parce que vous risquez chaque fois de m'interrompre. Je veux parler aussi de ce que vous venez de dire. Donc la première étape dans la construction d'une économie, c'est la stabilisation macroéconomique. Nous sommes arrivés à stabiliser le cadre macroéconomique. La deuxième étape, c'est la croissance. Et puis, la dernière, c'est le développement. La croissance économique, donc l'augmentation de nos richesses, est aujourd'hui effective depuis 2002. Mais maintenant, dans la croissance, il y a deux étapes. Il y a l'accumulation, donc l'augmentation d'abord quantitative des richesses. Et la deuxième étape, c'est la répartition ou la redistribution de ces richesses. C'est ce à quoi nous nous évoquons maintenant. Alors, je parle rapidement de la FEC, parlant de la dette intérieure. Vous savez, monsieur le journaliste, notre dette intérieure a une composante importante constituée de ce qu'on appelle des dettes indues. Vous le savez, ce qui s'est passé lors de la Deuxième République avec des dettes qui étaient créées de toutes pièces. Nous voulons faire la part des choses dans cette dette intérieure. Il y a une dette qui est effective, mais il y a une dette qui était créée ex nihilo. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire de cette dette intérieure un instrument aussi de financement du développement. La première étape, c'est la certification de cette dette, s'assurer que cette dette a des contreparties réelles en biens et services. Et la deuxième étape serait maintenant les remboursements de cette dette.
Voilà, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Bin Saloum de Goma, province du Nord Kivu. La RDC regorge beaucoup de potentialités, mais le peuple croupisse dans une grande misère suite à une inégalité sociale.
Vincent Gonga, en parlant d'inégalité sociale, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à parler de la mauvaise foi des détenteurs du pouvoir?
Non, là, c'est vous allez faire un procès d'intention. Attention. Parce que j'ai commencé par dire que la première étape dans la construction d'une économie, c'est la stabilisation macroéconomique. Vous savez que depuis 1976, jusqu'à passer par la période de transition politique, jusqu'à arriver à 2001, nous avons connu une période caractérisée par une hausse excessive, brutale et vertigineuse des prix, que le coût de la vie devenait intenable. Effectivement, l'inflation est source d'inégalité, comme l'a si bien dit notre compatriote de Goma. Et source d'inégalité. Maintenant, détruire ne prend pas beaucoup de temps, mais construire exige beaucoup de temps. Il fallait commencer d'abord par créer la fondation de la maison, c'est ce que nous appelons la stabilisation macroéconomique, et maintenant commencer à faire croître le mur, c'est la croissance. Mais maintenant, ce qu'il dit, c'est vrai. Maintenant, nous avons des ressources naturelles importantes. Comment les utiliser au mieux pour requalifier les conditions de vie de la population congolaise. Et c'était cela le thème du Forum économique international. Nous allons en parler.
Merci Vincent Gonga, je vous redonne la parole tout à l'heure. Victor Nzouzi, bonsoir, vous êtes en ligne, vous nous suivez?
Oui, je vous suis.
Vous êtes coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Comment vous avez accueilli l'organisation du Forum économique international de Kinshasa?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que ce n'est pas extraordinaire parce que nous sommes habitués à faire des grands forats, nous sommes habitués à faire des séminaires et partout, des résolutions, mais à la fin, tout est jeté dans le tiroir, ça c'est clair. Chez nous, nous sommes habitués à faire des grands discours et pour concrétiser, ça pose des problèmes. Et je pense que, comme venait de le dire le conseiller du ministre, M. Vincent, ça ?
Vincent Gonga, oui.
Oui, alors je pense qu'il a parlé d'un thème aussi important, la dette intérieure, créée de toutes pièces. Mais je voudrais lui dire que, en fait, pas lui dire, mais je voudrais simplement mentionner que même la dette extérieure, c'est une dette aussi qui a été fabriquée de toutes pièces. En principe, après avoir chassé la dictature, normalement, on devait passer à l'audit de la dette. On devait connaître pourquoi on est arrivé à cet endettement pratiquement qui a enrichi les Occidentaux et certains fils du pays au détriment de la population. Je l'ai dit parce que le programme que nous suivons, le programme du gouvernement congolais est lié à l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. Et ce programme-là, lié à la dette, malheureusement à la dette odieuse, c'est vraiment, on ne peut pas parler du développement avec un programme pareil. Et donc, lorsque maintenant nous faisons des grandes conférences, hier c'était sur le coulage des recettes, aujourd'hui on parle de ce forum, mais en réalité, nous sommes partis sur de mauvaises, de très mauvaises bases. Parce que par rapport à nos ressources naturelles, nous avons pratiquement troqué, j'allais dire, nos ressources naturelles contre les 14 milliards de dollars de dettes qu'on avait. On a tout privatisé, tout libéralisé, nous avons perdu nos ressources naturelles. Et il faudrait que les auditeurs comprennent qu'aujourd'hui, les systèmes, les grands partenaires qui étaient là, c'était la Banque mondiale. Les systèmes de la Banque mondiale, aujourd'hui ces systèmes basés sur la rigueur, sur la dette, la soi-disant bonne gouvernance, mais ce système a démontré ses limites en Occident, avec tous ces pays qui vivent aujourd'hui la misère, la crise. Donc je vois très mal comment nous devons continuer à persévérer dans ce système économique, dans ce système financier mondial qui a conduit le monde au désespoir pratiquement. Donc nos ressources naturelles sont là. Nous devons connaître leurs valeurs. Nous avons de l'intelligence. Mais tout ce qui nous manque, c'est le sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Nous devons apprendre à être sérieux. Voyez un peu, tout à l'heure, quand vous m'aviez contacté, l'un de vous m'a contacté, j'ai dit, mais dernièrement, il y a eu ce grand sommet sur le coulage des recettes. Après, le mois de mai nous a démontré au lieu que les recettes dans les trésors publics augmentent, ces recettes ont baissé.
Alors, Victor Nzouzi, peut-on comprendre par cette intervention que vous craignez que ce forum ne soit en fait qu'un forum de trop?
Ben, c'est un forum de trop, mais c'est un forum de trop pour moi, pour la population, c'est un forum de trop. Mais pour les investisseurs, c'est très favorable pour eux, parce que eux, ils vont en tirer des bénéfices, parce que ils ont trouvé des interlocuteurs qui sont toujours pratiquement pour les investisseurs. Aujourd'hui, toutes nos lois, que ce soit la loi sur les investissements, sur le minerai, sur la forêt, sur l'eau, et tout ça sur les entreprises, c'est toujours, vous lisez le préambule, les deux premières, trois, quatre pages, c'est toujours pour attirer les investisseurs. Et où est le peuple congolais? Où est le peuple congolais? Donc moi je pense que nous devons réellement nous débarrasser de toutes ces théories qui ne servent à rien. D'abord, nous devons repartir sur de bonnes bases. Dire que ceux qui nous ont endettés et qui nous ont mis dans ce pétrin, ceux qui veulent aujourd'hui que toutes nos lois, que toute notre économie soit basée sur ces principes de reconnaissance que nous sommes pauvres et très endettés, eh bien que cela sache que ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas pauvres, nous ne sommes pas endettés. Tant que nous partirons sur ces bases-là, eh bien nous allons sacrifier toutes nos ressources naturelles et nous allons sacrifier le peuple congolais. C'est malheureux. On continuera à parler, je ne sais pas, des indicateurs qui sont au vert, macroéconomiques et tout ça. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne rien. Et la bonne gouvernance, nous savons l'impunité au pays.
Alors,
c'est ça le problème.
Victor Nzouzi, Alkitenge disait tout à l'heure que parmi les leçons, il avait retenu qu'on avait finalement des universités vivantes en RDC qui permettaient de faire une relation entre le politique et le scientifique. Vincent Ngonga, dans le même sens, a dit qu'un pays ne vaut que par ses cerveaux. Ce forum, finalement, n'a-t-il pas le mérite de mettre ensemble la crème scientifique pour réfléchir sur les problèmes du Congo?
Oui, la crème scientifique. Est-ce que ces universitaires, est-ce que ils ont remis en cause le fait que nous devenions pauvres, très endettés? Ce sont les mêmes universitaires qui ont été là quand on élaborait les DCRP intérimaires, finales, les DCRP de deuxième génération. C'est les mêmes intellectuels qui ont voulu que les Congolais acceptent qu'on est pauvres, très endettés. Donc moi je pense que nos intellectuels, sincèrement, nos universitaires, il faut vraiment qu'on se remette en cause. Il faut qu'on se remette en cause. Aujourd'hui, la situation du Congo, c'est une situation, il faut même se poser la question si nous en avons, les universitaires, les intellectuels, si nous en avons. Parce que les universitaires, ce sont ceux-là qui voient l'univers. Aujourd'hui, les grandes puissances, quand on parle du forum, les grandes puissances, tous ceux qui viennent aujourd'hui pour nous faire des leçons, ils connaissent nos faiblesses. Ils savent que facilement nous sommes corrompus. Par rapport à la bonne gouvernance, il suffit de voir une autorité, un ministre, pour que la situation soit résolue par rapport à son entreprise.
Merci,
les gens
Victor,
savent. Les gens savent que en RDC, Victor, les lois, ce sont des lois qu'on fabrique selon le lobby.
Donc, merci Victor Nzouzi, je vous redonne la parole tout à l'heure. Alkitenge, vous venez de suivre un Victor Nzouzi très déchaîné. Comment vous réagissez à chaud?
La réaction de M. Nzouzi est compréhensible. On peut dire qu'elle est mêlée de beaucoup de Congo-pessimisme, mais elle traduit le caractère amer de la situation des Congolais au quotidien. Mais ce qu'il faut quand même qu'ils retiennent, et c'est très important, c'est que, je le disais en introduction, ce forum international appelle un forum national économique entre nous. Fort des réalités que nous avons entendues, comment nous tropicalisons ces réalités en nous regardant droit dans les yeux, et il y a deux défis. Le premier défi, c'est le plan de gouvernance, le code de conduite qui nous tient tous, qui décrit ce que lui-même appelle la corruption généralisée, pour que nous puissions rendre compte vis-à-vis de l'avenir en sachant que nous connaissons le prix de la destruction par la mauvaise gouvernance. Deuxième chose, c'est le pacte national, le pacte pour la nation. C'est important qu'à un moment donné, on dise, nous avons fait ensemble suffisamment de bêtises, ça a coûté trop cher à la République,
nous devons changer, y compris dans la manière d'interférer avec les autres. Mais vous ne pouvez pas interférer avec les autres si vous n'avez pas votre propre plan. Sinon, ils vous entraînent dans leur propre plan, qu'il s'appelle DSRP ou qu'il s'appelle tout à fait autrement. C'est pour ça que je dis, il est important que les Congolais s'approprient et que nos universités jouent leur rôle, celui d'être les centres d'impulsion d'intelligence, afin que la République agisse en toute lumière. Nos réalités aujourd'hui, c'est que nous avons un État qui n'est pas sur toute l'étendue de la République. Premier défi. Deuxième défi, nos fonctionnaires sont sous-payés et dans ces conditions, ils ne peuvent pas donner de résultats. Monsieur Zouzi dit tout à l'heure, il est important qu'on sache ce que valent nos ressources naturelles. Pour le savoir, il faut beaucoup de milliards de dollars. Il faut faire des études et des analyses. Et ces milliards, nous ne les avons pas. Et donc, ça nous lie au monde entier. Nous devons savoir ce que nous apportons sur la place internationale, ce que nous en prenons. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un, c'est malheureusement la loi de la jungle, c'est normal que plus fort que nous nous bouffe, et c'est pour ça que nous devons nous donner de notre propre plan national de développement qui tient compte des besoins de gouvernance, mais également des atouts qui sont les nôtres et où nous désirons aller. C'est pour ça que les institutions doivent être efficaces.
Alors, Alkitenge, Victor Nzuzi n'aurait-il pas raison quelque part quand il craint que là où se trouve la Banque mondiale, finalement, son système a montré ses limites. Là où il y a la Banque mondiale, on ne parle qu'austérité, il faut serrer la ceinture. Et à travers le monde, ce mot austérité commence à faire peur.
Non, il faudrait d'abord qu'il se rende compte que la Banque mondiale elle-même s'est remise en question. Elle s'est rendue compte qu'un certain nombre d'erreurs ont été commises et qu'elle s'amende. Aujourd'hui, la Banque mondiale, ce qu'elle apporte aux pays comme le nôtre, ce n'est plus l'argent, parce que l'argent est ailleurs. Ça apporte la connaissance et les études et l'intelligence. Et aujourd'hui, la Banque mondiale et le Fonds international sont beaucoup plus des centres d'études et ils accumulent énormément de connaissances au travers de leur caractère transversal à travers le monde. Et je ne crois pas que nous devrions nous inquiéter outre mesure de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Nous devrons nous inquiéter de notre propre cap organisé. Être en mesure de nous asseoir face à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Chine et aux autres intervenants internationaux, de sorte que, de manière géostratégique, nous puissions être en mesure de mettre un agenda sur la table. Ça nous a toujours manqué, et je disais tout à l'heure, ce forum international économique est une première base pour un forum économique national qui, lui, devra aboutir à un plan national de développement. Il est important que, dans la continuité, nous puissions nous dire, il est aujourd'hui impérieux que la République sache où elle veut aller, de sorte que citoyens d'en bas et d'en haut aient une compréhension unique de la République, une compréhension qui donne un filet social à tout le monde.
Merci Alkitenge. Vincent Ngonga, je vous ai vu demander la parole après que Victor Nzuzi ait fini de parler. Qu'est-ce que vous lui répondez avant que l'on aborde la deuxième partie concernant les recommandations?
Mon cher journaliste, je crois que il faudrait d'abord être humble. Dans ce domaine que vous ne maîtrisez pas, il ne faut pas vous hasarder. Parce qu'il y a eu beaucoup d'afro-pessimisme dans ces déclarations, dirigées faciles et de la généralisation hâtive. Je risque de beaucoup répondre à notre compatriote Victor Nzuzi.
Résumez-vous, comme
oui,
ça on va passer aux recommandations.
Oui, c'est que je lui dirais d'abord qu'il retienne que, un, nous ne sommes pas à la solde du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale. Deux, que la dette, tant intérieure que tant extérieure, a une composante odieuse très importante. Effectivement, il a dit, mais la dette intérieure, extérieure, pardon, a été ramenée de 13 à 4 milliards. Donc, aujourd'hui, ça fait pratiquement une année et demie que nous ne recevons rien du Fonds monétaire. Donc, nous ne sommes pas là de faire valoir du Fonds monétaire. Nous devons reconstruire notre pays et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, bâtir d'abord un plan de développement qui soit approprié par tous les Congolais et ces plans de développement devraient mettre en place les priorités de développement de ces pays. Les priorités de développement étant définies, nous devrons maintenant nous dire comment obtenir un maximum de financement pour arriver à financer toutes ces priorités de développement. Et c'était l'objet du forum, parce que le forum s'est planché sur l'utilisation efficiente des ressources naturelles. Comment arriver à utiliser au mieux nos ressources naturelles pour arriver à financer nos besoins de développement. Je crois que nous devons plus maintenant regarder de l'avant. Nous avons stabilisé le cadre macroéconomique. Comment aujourd'hui requalifier les conditions de vie de la population?
Voilà. Permettez que souffrez que je vous arrête à ce niveau. Je vous redonne la parole. À l'issue des travaux du Forum économique international de Kinshasa, les participants ont formulé une soixantaine de recommandations au gouvernement congolais. Dans son mot de clôture, le Premier ministre a relevé quelques-unes des recommandations qu'il juge prioritaires. À en croire Augustin Matata Ponyo, le gouvernement s'engage à les mettre en œuvre. On l'écoute au micro de Daniel Tambinzoni.
Parmi les recommandations issues de ces assises, celles qui suivent ont retenu ma particulière attention. Concernant les questions de gouvernance et de macroéconomie, 1. De la nécessité de consolider et ajuster l'accord politique de Sun City afin de rencontrer les contrats sociaux et l'équilibre politique formalisé dans la Constitution de 2006. 2. Intensifier les mesures de redevabilité et de transparence telles que l'initiative pour la transparence des industries extractives et aller au-delà de la réconciliation pour aborder la question de l'utilisation effective des revenus. Troisièmement, renforcer les capacités pour des négociations efficientes et efficaces des contrats miniers avec les sociétés privées, une assistance technique des partenariats au développement dans la préparation des contrats étant envisagée. Quatrièmement, il faudra développer un programme de réhabilitation des infrastructures basé sur des critères objectifs et utiliser des procédures compétitives et transparentes dans la mise en œuvre de ces programmes. S'agissant des questions ayant trait à la sécurisation des recettes issues des ressources minières, quelles sont les recommandations principales qu'on peut identifier? Premièrement, intensifier la recherche géologique afin d'améliorer les connaissances sur les réserves du pays en ressources naturelles.
Vincent Gonga a un commentaire sur ces recommandations que vous venez de suivre énumérées par le Premier ministre.
Exact, c'est très bien. Merci beaucoup. Je crois que c'est ce que je disais. Ce qui doit être aujourd'hui notre grande préoccupation, c'est de savoir, nous avons des ressources naturelles. Comment transformer ces ressources en développement humain, en requalification des conditions de vie de la population? Vous venez de suivre son exemple, monsieur le Premier ministre. Prenons en ce qui concerne le secteur minier. Il faudrait intensifier effectivement la recherche géologique pour avoir une meilleure connaissance des réserves dont nous disposons à cette matière. C'est de cette manière que nous pourrions maintenant être en bonne position pour négocier. Mais même pour négocier, il faut accroître nos capacités de négociation sur, dans tous les domaines, pour la scientifique des contrats miniers, des contrats pétroliers ou des contrats forestiers. Et alors maintenant, c'est dire, avec cette plateforme de développement, comment financer les priorités de développement. Donc nous avons d'une part, comme source de financement, nous avons les secteurs miniers, les secteurs pétroliers, les secteurs les forestiers, et je peux prendre aussi les secteurs énergétiques, principalement l'énergie électrique. Et de l'autre côté, nous avons l'agriculture, qui est notre priorité des priorités. Nous savons que plus de 70% de la population congolaise est dans le milieu rural et vit de l'agriculture. Financer aujourd'hui l'agriculture, une agriculture intensive nécessite des moyens. Ces moyens pourront provenir de l'exploitation efficiente de certaines de nos ressources naturelles, dont les mines, dont le pétrole et les ressources forestières. Voilà un peu la stratégie de développement. Malheureusement, le temps nous impartit est très court. Voilà comment nous voulons cheminer dans cette stratégie de développement qui vise la requalification des conditions de vie des populations congolaises. Donc, merci. Ce n'est pas un forum pour rien, comme l'a dit mon compatriote Ndouzi. Non, merci. Nous sommes déterminés à aller de l'avant.
Merci Vincent Ngonga. Victor Ndouzi, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kalima Omanyema.
Charles Ingen à Kalima dans la province du Maniema. La RDC n'est pas sa première histoire dans l'organisation des forums et dont le résultat positif tarde toujours à venir. Nous accordons peu de chance quant à la mise en application par les autorités congolaises des recommandations formulées au terme de ces forums économiques de Kinshasa, car, dit-on, un chat échaudé craint même l'eau froide.
Victor Nzuzi, vous-même aviez déjà en début d'émission émis presque la même observation que l'auditeur, mais vous venez de suivre le Premier ministre qui pratiquement s'engageait à mettre en œuvre ces recommandations. Quelle chance leur accordez-vous par rapport à leur impact sur le développement de la RDC?
Ben, j'écoute, je suis clair, je vais être cru, il n'y a aucune chance, je l'ai dit. Et je regrette que M. Vincent dise que je suis en train de m'hasarder dans un domaine que je ne connais pas. C'est vraiment malheureux. Et si on était dans des débats politiques, je ne fais pas de la politique comme ça, mais j'allais demander qu'il retire sa parole. Et je suis au village maintenant. Je suis au village, maintenant où je vous parle. Je suis en colo, au village. Si vous voyez la situation de paysans, en Colo, c'est en Banzanungu, où il n'y a pas de route. Vous allez dans les écoles, il n'y a pas de banc. Je pense qu'il faut arrêter avec les histoires de macroéconomique. Mais ce que je voulais dire ici, par rapport au Premier ministre, la transparence. Si réellement le Premier ministre veut de la transparence, la première chose qu'il doit faire, c'est de demander d'auditer d'abord la dette odieuse. Une dette odieuse, on ne la paye pas. Et toutes les autorités congolaises reconnaissent que la dette congolaise, c'était une dette odieuse. On ne la paye pas. La deuxième chose, c'est qu'il faut arriver à auditer les contrats. Actuellement, même les contrats chinois, j'ai dit même les contrats chinois, il faut auditer ces contrats, parce que ce sont des contrats qui vont à l'encontre de la Constitution, de l'article. Moi, je pense qu'il faudrait lier tous les différents contrats miniers que nous avons, et même forestiers, donc par rapport aux ressources naturelles, à l'article 56 de la Constitution. Ce sont des contrats qui mettent la souveraineté, les Congolais dans une situation de misère, de pauvreté. Donc je pense, et ceux-là qui l'ont signé, ceux qui ont participé à la signature, doivent voir l'article 57 pour qu'il soit traduit en justice pour haute trahison. Donc c'est la première transparence, ces contrats-là. La deuxième chose aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'il faut changer l'homme politique. Les politiciens congolais, ils sont habitués à nous faire des discours. Mais c'est pas sérieux. Chez nous, quand on fait des discours, on le fait, et après demain, il n'y a aucun résultat, et après on continue la politique. Dans d'autres cieux, cela démissionne. Quand on a promis, et que rien de concret ne se passe, on démissionne. Et la troisième chose, je demanderai, puisque les autorités, en fait, ceux qui dirigent le pays, qu'ils libèrent la justice. Tant que la justice congolaise sera ce qu'elle est, dépendant de certaines personnes, de certaines institutions, eh bien, nous n'aurons jamais, jamais du concret dans ce pays. Et malheureusement, le pays est en train de sombrer. Je fais partie du réseau sur l'annulation de la dette. Je fais partie de plus de trois réseaux internationaux sur l'annulation de la dette de pays soi-disant pauvres. Donc, je connais ce que j'ai dit. Et je revenais d'une grande conférence par rapport aux ressources naturelles en Suisse, où les grandes puissances, où les grandes banques et les traders, les négociants, se demandaient comment ils peuvent s'accaparer de matières premières à travers le monde. Il y a un mois et demi que je suis rentré. Et je suis allé avec la commission de lutte contre la corruption d'éthique du ministère de la fonction publique aux États-Unis, par rapport à la lutte contre la corruption. Donc, je ne suis pas seulement un villageois, et dire que je ne connais pas la matière, c'est regrettable. Je pense que le pays est tellement très mal géré que ce qu'il faudrait faire, c'est de faire l'audit de ces différents contrats miniers, c'est de faire fonctionner la justice, et il faudrait que ceux qui font la politique et qui mentent les gens, qui roulent les gens, qui font des promesses inutiles, réellement aille à la démission, sinon que la justice s'en occupe.
Merci Victor Nzuzi. Alkitenge, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Paris en France.
Okitapo Ilonga, Moyo, Paris, France. La croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation du PIB, est la hantise de tous les pays. Sauf que dans le cas de notre pays, cette croissance n'est pas tirée par le bon moteur, c'est-à-dire l'investissement qui crée de la valeur ajoutée. La RDC consomme pratiquement 80% des produits importés, ce qui est un coût important en devise forte. Ajoutez le fait que notre pays est tributaire des exportations essentiellement constituées par des produits primaires. Dans ces conditions, on ne peut prétendre à un développement harmonieux. Si vous y ajoutez la corruption et la destruction de l'environnement, ceci rend toute initiative hasardeuse.
Réaction Alky Tengue, tout en signalant qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission.
Les Congolais ont été tellement refroidis pendant longtemps qu'ils ne croient plus en eux, et ça c'est dangereux. Moi j'ai envie de leur dire un jour un État puissant au centre de l'Afrique et au centre du monde. Alors mes recommandations sont les suivantes. Nous devons nous parler entre nous. Nous avons besoin de ce débat de société que j'appelle le Forum National Économique, au-delà du Forum International. Il sortira de ce forum un pacte pour la République, un consensus politique à base économique. Il sortira de là un code de conduite, un pacte de gouvernance. Il sortira de là l'évidence du besoin de réviser le code minier, notre levier financier pour le plan national du développement. Mais aussi, je crois que, il faut donner ce qu'on appelle un saut qualitatif, un quantum leap. On a besoin d'un paquet financier pour lever notre niveau actuel du PIB afin de commencer à croître à partir des bases saines. Pour ça, les défis immédiats sont, un, l'occupation du territoire, l'administration du territoire, mais également le fonctionnement de l'État. Pour y arriver, on a besoin de travailler sur la santé, parce que notre espérance de vie est très faible, aujourd'hui on est à 48 ans, ce n'est pas acceptable. Nous devons travailler pour que l'éducation puisse rattraper les compétences dont la République a besoin pour fonctionner normalement, et on doit doter l'État des infrastructures économiques modernes. À mon avis, nous sommes au centre d'un besoin de positionnement géostratégique et nous avons aujourd'hui l'opportunité de le faire.
Et donc, en guise de conclusion déjà, Alky Tengue, le préalable pour que ce forum puisse avoir un impact sur le développement de la RDC serait que les Congolais s'approprient ces recommandations.
Absolument, il y a un besoin d'appropriation, il y a un besoin de vérité, il y a un besoin de nous dépasser. Alors, la République est en danger, il est important que nous puissions être en mesure de prendre les choses au sérieux.
Un besoin de vérité, il faut nous dépasser. Victor Nzouzi en appelle à la mise en place d'une nouvelle classe politique.
Elle ne sortira pas des arbres, la nouvelle classe politique, ce sera nos frères, nos sœurs, nos tantes, exactement comme sont ceux qui sont là. Aujourd'hui, je pense que la chose la plus importante, c'est de dire ceux qui ont choisi la politique comme métier, il faut les surveiller en permanence, c'est le rôle de la société civile.
Voilà, merci Alky Tengue, Vincent Ngonga, vous avez suivi Victor Nzouzi qui pense qu'il faut auditer la dette, auditer les contrats, changer l'homme politique, libérer la justice. Qu'est-ce que vous pensez de son analyse?
Je peux apprécier d'abord notre compatriote Victor Nzouzi. La dette intérieure est en train d'être certifiée. Déjà certifier une dette voudrait dire qu'on est en train de l'ausculter et de l'auditer. Bien, maintenant comme on est à la fin de l'émission, j'aimerais donner les principaux axes du plan national de développement dont venait de parler aussi mon collègue Alky Tengue. Il faudrait d'abord commencer par définir les priorités de développement, sans préjudice de la réforme des fonctions régaliennes de l'État. Il faut mettre un accent particulier sur la formation du capital humain, mais cette fois-ci ce serait une formation du capital humain adossé sur les priorités économiques du développement, à savoir, il y a l'agriculture, j'en ai parlé, insister sur l'industrialisation de l'agriculture, c'est ce que le gouvernement est en train de faire avec les partenariats stratégiques et les parcs agro-industriels. Il y a l'industrie, les infrastructures de base.
Et donc, voilà. Il faut espérer que ce forum aura un impact sur le développement de la RDC, en un mot.
Le forum n'était que juste un début. C'est juste une contribution à l'élaboration du plan de développement. Merci. Nous cheminons vers l'élaboration du plan intégral de développement de la RDC.
Merci. Victor Nzouzi, votre mot de conclusion.
Ouais, le mot de conclusion, ben voilà, on a parlé de cette formation du capital humain, mais malheureusement, je ne suis pas du Congo au pessimisme, mais de quelle formation on parle, telle qu'on voit nos écoles aujourd'hui, telle qu'on voit nos universités aujourd'hui, je pense que nous devons réellement nous regarder, nous dire la vérité, et la vérité c'est que la volonté politique, la volonté pour le développement du Congo, c'est dans les discours, mais ce n'est pas dans les concrets. Je regrette, merci. Mais c'est celle-là ma conclusion, et il faut changer les choses.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Restez branchés sur la radio de la paix. Au revoir.